sur les églises évangéliques et on termine ce soir sur cette question-là. Alors, nous avions vu la dernière fois, nous étions arrêtés justement à, aux églises méthodistes, c'est bien ça, je crois ? On avait parlé des églises méthodistes ?
Les Mennonites,
c'est ça, oui. Bien, alors il nous faut parler aussi d'un petit mouvement qui est quand même très très connu en France, dans les grandes villes notamment, non pas tellement à cause de son, comment dirais-je, de son nombre, mais à cause d'un certain rayonnement et puis peut-être d'un aspect un peu folklorique, c'est l'Armée du Salut. L'Armée du Salut est née au siècle dernier, en 1878, dans des milieux méthodistes, et comme un réveil de type méthodiste. C'était un chrétien qui avait soudain été amené à prendre conscience de l'extrême misère des populations qui vivaient dans les bas-fonds de Londres. Ceux qui, le prolétariat urbain, qui, vous savez, à cette époque-là, vivaient quand même dans des conditions extrêmement difficiles, tellement difficiles qu'elles ont conduit au marxisme. Et le fondateur de l'Armée du Salut, il s'appelait William Booth, B-O-2-T-H. Et ce William Booth a pris conscience que là, il y avait des besoins de différents types. D'abord, ces gens-là vivaient dans des conditions matérielles extrêmement difficiles, souvent dans la misère pécuniaire et économique, et que par conséquent, il fallait les secourir à ce niveau-là. Deuxièmement, que cette misère économique dans laquelle ils vivaient les entraînait à des vices tels que la boisson, la dépravation, etc. Et qu'il fallait intervenir à ce niveau-là. Et troisièmement, qu'il y avait aussi des besoins de type spirituel. Mais William Booth, contrairement à ce que pensaient un certain nombre de chrétiens de son temps, ne pouvait pas imaginer venir en aide à ces gens-là uniquement sur le plan spirituel, mais il pensait qu'il fallait aussi intervenir sur le plan social, sur le plan économique, etc. Et William Booth a donc lancé un mouvement, il a essayé de mobiliser un certain nombre de chrétiens, de les faire prendre conscience de ce besoin-là, et beaucoup n'ont pas compris. 3 minutes de retard, même. Ah oui, d'accord. Donc, William Booth a pris conscience qu'il a essayé de mobiliser un certain nombre de chrétiens qui n'ont pas pris vraiment la mesure du besoin. Et comme souvent dans ces cas-là, William Booth a été obligé d'entreprendre son action en marge de l'église officielle, de son église qui était l'église méthodiste. Et William Booth a été amené à créer un mouvement sur le modèle militaire. Il a mobilisé, c'était son mot d'ordre, mobilisé les âmes pour combattre ce fléau terrible qu'était la misère, qu'était la dépravation morale et qu'était la détresse spirituelle des gens vers lesquels il voulait aller. Il estimait que dans ce domaine-là, c'était une véritable guerre, un véritable combat qui devait être mené contre ces fléaux-là, et par conséquent, il fallait que les chrétiens se sentent mobilisés, se sentent comme des soldats qui sacrifiaient tout pour gagner la bataille, et son mot d'ordre, c'était l'Angleterre pour Jésus. Un certain nombre de gens ont répondu à son appel, et William Booth lui-même a commencé à aller prêcher dans les bas-fonds de Londres, un petit peu comme le fera plus tard la mission populaire avec le Pernic dont on parlait ensemble la semaine dernière. Il allait dans les cafés, etc. Il montait sur les tables des cafés, et puis là, il haranguait les buveurs et tout ce qui était à la table des cafés, et il les exhortait à se tourner vers Jésus, etc. Alors, un certain nombre de gens ont commencé à se convertir, et sous l'impulsion de William Booth, qui était un homme rempli du Saint-Esprit, qui avait fait vraiment des expériences de type charismatique, eh bien, un réveil a commencé dans ces bas-fonds, un véritable réveil, avec des conversions spectaculaires et brutales. À la suite de la prédication de William Booth, les âmes étaient terrassées sous la conviction de péché, un petit peu comme à l'époque de Finet, Et là, se mettaient à pleurer sur leurs péchés, se tournaient vers Dieu, et puis ensuite, au contraire, éclataient en chants de louange au moment où elles avaient le sentiment que leur péché était pardonné et que maintenant toute chose était nouvelle pour elles. Et souvent, ces anciens buveurs, ces anciennes prostituées, ces gens qui se tournaient vers Jésus dans ces moments-là, eh bien, avaient à cœur de poursuivre le témoignage dans le milieu d'où ils étaient issus, de façon à tirer d'affaire aussi ceux qui se trouvaient dans la situation qu'ils avaient eux-mêmes quittée. Et c'est ainsi que William Booth a enrôlé ses premiers soldats, les premiers soldats de son armée, qu'il appelait donc Salvation Army, c'est-à-dire Armée du Salut en français. Alors il a affublé ces gens-là d'un uniforme, il les a formés, il a créé une école militaire, comme il l'appelait, où allaient se former les officiers. Alors il a donné des grades aux uns et aux autres, lui il s'est bombardé général, et puis sa femme aussi, Catherine Booth, c'était une femme à poigne, une femme qui avait un drôle de tempérament, et au bout d'un certain temps, Catherine Booth bouillait sur sa chaise quand elle entendait son mari prêcher, trouvait que c'était un peu mou, etc., alors elle essayait de le secouer pour qu'il soit plus énergique, etc. Puis un jour, n'en pouvant plus, elle s'est levée au milieu d'une réunion, puis elle a fait asseoir son mari, puis c'est elle qui a prêché. Et depuis ce temps-là, elle a continué à prêcher. Et c'est la raison pour laquelle les femmes dans l'armée du salut prêchent à la suite du coup d'éclat de la générale, comme on l'appelait. Et la théologie de Catherine Booth, c'était celle-ci, après tout, du moment qu'il y a des gens qui se convertissent, eh bien, les femmes peuvent prêcher aussi bien que les hommes, parce que la preuve, c'est qu'il y a des résultats qui sont là, qui suivent. Et c'est ainsi que dans l'école militaire qui a été fondée par les généraux William et Catherine Booth, eh bien, les femmes, aussi bien que les hommes, étaient reçues. Alors, outre la formation biblique très sérieuse, par ailleurs, que ces gens-là recevaient, donc, ce qui finalement n'était qu'une école biblique ou un institut biblique classique, même si ça portait le nom d'école militaire, William Booth essayait de faire en sorte que ces gens-là fassent des expériences spirituelles, notamment dans le domaine de la sanctification au sens méthodiste du terme. On a vu la dernière fois ce qu'était pour les méthodistes la sanctification. Et en fait, beaucoup de ces gens-là pensaient recevoir, faire l'expérience de la sanctification, et en fait faisaient l'expérience du baptême du Saint-Esprit. J'avais un de mes professeurs, quand j'étais à l'école biblique en Angleterre, qui me racontait comment sa mère avait été entraînée par une de ses amies dans une de ses réunions de l'armée du salut. Et là, donc, ensuite, quand lui, son fils, s'était converti et qu'il avait fait expérience du baptême du Saint-Esprit au moment de l'évêque de Pentecôte, elle lui avait dit, bien tu vois, cette expérience que tu viens de faire là, ce que j'ai vu ce soir, ces gens qui étaient baptisés du Saint-Esprit, eh bien, c'est exactement ce que nous, les salutistes, nous appelions de son temps l'expérience de la sanctification. Donc il y avait d'authentiques baptêmes du Saint-Esprit qui se manifestaient dans ces milieux de l'armée du salut sans que l'on sache que c'était le baptême du Saint-Esprit, en fait. Voilà. Alors, à partir de cela, aussi, William Booth donnait à ces gens une formation musicale, notamment avec des fanfares, etc. Et puis alors, ensuite, il entreprenait dans les rues de Londres des grands défilés, musique en tête, avec le drapeau de l'armée du salut, sang et feu, c'était la devise de l'armée du salut. Alors le drapeau était rouge, qui représentait le sang du Christ, avec une grande croix de feu, couleur de feu au milieu du drapeau, et puis autour il y avait marqué sang et feu. Et puis, alors, les porte-drapeaux étaient en tête du défilé, suivis par la fanfare, les tambours et tout. Et puis ensuite, il y avait la pitaille qui suivait derrière en chantant. Alors, il était évident que ça faisait une certaine sensation partout où il passait. Et bien sûr, c'était pour William Booth une manière de faire la publicité. En dehors de cela, et ensuite, il parachutait ses officiers au front, comme il l'appelait, en première ligne. Alors la première ligne, ça consistait à louer un local, en général mal famé, un ancien bistrot ou une ancienne maison de passe dans un endroit particulièrement dépravé de Londres. Et puis là, eh bien, les officiers ou les officières, eh bien, prêcher l'évangile, inviter les gens. Alors, dans la journée, il y avait ce défilé dont je parlais, on annonçait la réunion du soir, et puis le soir, eh bien, les soldats en grand uniforme allaient ramasser dans les rues tous les poivrons qu'ils trouvaient, les prostituées, etc., les amener à la réunion, et puis alors, on a prêché l'évangile. Et alors, William Booth avait institué cette manière de faire, c'est qu'à la fin de ces réunions, il y avait un premier banc qui était destiné à recevoir ceux qui voulaient donner leur vie au Seigneur. Il appelait ça le banc des pénitents, et il invitait son auditoire à venir s'asseoir au banc des pénitents pour manifester ainsi qu'il donnait sa vie à Jésus-Christ. Si vous voulez, c'est un petit peu la manière que Billy Graham a reprise quand il invite les gens à s'avancer sur le devant de l'estrade. Il ne fait pas asseoir, il fait rester debout, mais enfin, c'est finalement le même procédé qui consiste à amener les gens à se compromettre devant les autres, à prendre ouvertement position pour Jésus-Christ et ainsi les aider à prendre une position ferme et définitive. Et souvent, d'ailleurs, les gens qui s'étaient ainsi avancés au banc des pénitents, eh bien, étaient ensuite solides pendant tout le reste de leur vie. C'est ainsi qu'un très très grand réveil a eu lieu aux États-Unis, en Angleterre, à la fin du siècle dernier. Et à partir de là, William Booth a pensé étendre son œuvre en dehors de l'Angleterre et notamment sur le continent en France. Et c'est ainsi que, quelques années plus tard, Catherine Booth, la générale, avec sa fille Irène, débarquait en France pour tenter d'implanter l'armée sur le sol français. Bien sûr, le sol français était un petit peu plus difficile et un peu plus aride que le sol britannique à ce niveau-là. Il y avait l'influence du catholicisme était très grande à ce moment-là, si bien que le réveil qui avait marqué l'Angleterre n'a malheureusement pas atteint la France, mais néanmoins, les Booths ont réussi à implanter en France une branche de leur armée qui existe jusqu'à nos jours. Elle se trouve concentrée essentiellement dans la région parisienne et dans un certain nombre de grandes villes où sont installées ce que les salutistes, comme on les appelle, nomment des postes. On n'appelle pas ça des églises, parce qu'en principe, l'armée du salut ne se veut pas une église, mais simplement, ils appellent ça des postes militaires, comme il y a des postes dans l'armée, dans toutes les armées du monde. Alors, ils ne se veulent pas une église, ça veut dire qu'ils se veulent essentiellement un mouvement d'évangélisation, et logiquement, ils invitent les gens qui se convertissent ensuite à se joindre à une église établie. Ou bien alors, ceux qui veulent militer dans leur rang, alors qu'ils prennent le rang de soldat et l'uniforme. Alors il y a des cérémonies pour la prise d'uniforme, etc. Bon, et quand quelqu'un a fait profession de se convertir, il peut postuler à la prise de l'uniforme. Alors il reste dans la vie courante, dans son travail, etc. Il revêt son uniforme le soir pour aller distribuer ses tracts, défiler au son de la trompette, etc. Et si c'est pas jouer de la trompette en chantant dans les rues. Et donc ensuite, participer aux réunions. Maintenant, ceux qui veulent aller plus loin peuvent faire l'école d'officiers. Il existe à Paris une école d'officiers de l'armée du salut. Et à ce moment-là, sont en général, ont la responsabilité d'un poste quelque part. Pas alors, la devise de l'armée du salut est triple. C'est les trois S, comme ils appellent. Soupe, savon, salut. Alors, il s'agit d'évangéliser les gens qui sont en général les plus bas tombés et d'aller en priorité vers cela. C'est leur vision, c'est leur vocation. Et la première chose, donc, c'est d'apporter à des gens qui ont faim de quoi manger, comme dit l'Évangile, n'est-ce pas ? Si tu dis à ton frère, eh bien, mon frère, que Dieu te bénisse, mange et chauffe-toi, etc., ne lui donnez pas ce qui est nécessaire, bon, ben, vous êtes des hypocrites. Alors l'armée du salut a pris ça très au sérieux. Et la première chose, c'est de donner à manger à ceux qui ont faim. Et c'est devenu par exemple traditionnel dans les grandes villes de France, notamment l'hiver, de voir justement la tournée de la soupe de l'armée du salut le soir, vers, je ne sais pas, 11h minuit. Eh bien, il y a des voitures de l'armée du salut avec des grandes marmites qui vont dans toutes les bouches de métro, les endroits où les clochards se rassemblent. Et puis les clochards viennent prendre leur bol de soupe. Ça, c'est classique. Alors, pour financer ce genre de travail, l'armée du salut, évidemment qui est ultra minoritaire en France, fait appel à la charité publique. Et une des tâches essentielles des officiers de l'armée du salut, c'est de ramasser de l'argent justement pour pouvoir aider les clochards, les démunis, les prostituées. tués, les bravos et tout ce qu'on veut. Et notamment, les salutistes vont quêter dans les établissements publics. À Paris, c'est pas rare, si vous êtes dans un restaurant, de voir un officier ou une officielle armée du salut rentrer, puis tendre un chapeau ou un carton pour recueillir de l'argent. Bon, au moment de Noël, alors là, les salutistes font un effort très très particulier. Dans les grandes villes de France, ils mettent la marmite de l'armée du salut. Alors, au coin des rues, vous voyez des marmites sur un trépied. Et puis, quelques salutistes en train de jouer de la trompette, etc. Et les gens mettent l'argent dans la marmite. Enfin, c'est une manière pour eux d'être solidaires avec les pauvres pour permettre aux pauvres d'avoir un Noël valable. Alors, les salutistes en France ont développé toute une œuvre sociale extrêmement importante, une grosse, grosse infrastructure. Et à ce niveau-là, au niveau social, ils font un travail remarquable. Ils ont, par exemple, la péniche de l'armée du salut, une péniche qui est amarrée sur la Seine et qui reçoit des clochards, qui est un asile pour clochards. Les clochards peuvent le soir, chaque soir, venir, ceux qui sont sans asile, venir coucher là. Alors, ça demande pour ceux qui s'occupent de ça une consécration, une abnégation extrêmement importante, parce que souvent, évidemment, les clochards sont sales et tout, et salissent la chambre qui leur est réservée sur la piscine, et très souvent, sur la péniche, je veux dire, et très souvent, chaque matin, il faut complètement laver à grande eau chacune des chambres de la péniche, etc., quelquefois ils font leurs besoins et tout, là, comme ça, il y en a qui vomissent, ils sont ivres, etc. Et il faut recommencer chaque fois, comme ça, évidemment, ça demande une très très grande consécration, et ceux qui font ce travail font un travail absolument remarquable, absolument admirable. Outre la péniche de l'armée du salut, ils ont plusieurs asiles du même type dans la région parisienne. Ils ont aussi le palais de la femme qui accueille des jeunes femmes en difficulté, soit chassées par leur mari, soit des filles-mères, des prostituées, enfin des gens qui. Des femmes qui se trouvent dans des difficultés économiques, moraux ou autres, n'est-ce pas ? Ou même d'ailleurs des chambres aussi pour des jeunes filles qui sont par ailleurs des personnes tout à fait normales et recommandables, qui là, dans une chambre, comme elles auraient dans n'importe quel foyer, n'est-ce pas ? Et différentes organisations du même type aussi dans différentes villes de France. Alors ça, c'est donc la soupe. Savon, bah, parce que ces gens-là qu'on accueille, il faut quand même leur apprendre un petit peu quelques notions d'hygiène et tout, donc il s'agit de les laver, les mettre propres, et puis enfin, salut. Le troisième temps de l'affaire, c'est de les amener à des réunions d'évangélisation pour qu'ils puissent entendre l'évangile. Et il n'est pas rare d'entendre dans ces réunions des gens dire, n'est-ce pas, se lever, dire, bah, j'étais clochard, etc. Et puis, je me suis converti, maintenant je suis soldat dans l'armée du salut, etc. J'ai rencontré Jésus-Christ. Ou bien des gens dire, bah, j'étais ivrogne, etc. Et en son temps, d'ailleurs, l'armée du salut travaillait en relation très étroite avec les mouvements semblables qu'il y avait en France, c'est-à-dire la Croix Bleue, qui était un mouvement d'évangélisation au départ parmi les buveurs, avant de devenir, comme c'est aujourd'hui, uniquement un mouvement à vocation sociale, de réinsertion sociale des buveurs, et qui n'a pratiquement plus la dimension d'évangélisation. Mais ce qui est quand même remarquable, c'est que les salutistes, eux, ont gardé cette dimension d'évangélisation. Bon, même chose pour la mission populaire, qui elle aussi, au départ, était un mouvement d'évangélisation parmi les classes populaires des grandes villes, et qui maintenant n'est plus qu'un mouvement de réinsertion sociale, qui n'a pratiquement plus rien d'évangélique. Mais les salutistes, eux, ont gardé une ligne évangélique très ferme. Alors, comme les salutistes ne se veulent pas un mouvement, ne se veulent pas une église, eh bien, ils ne distribuent pas, comme on appelle les sacrements, c'est-à-dire ils ne baptisent pas les gens et ils ne font pas de Sainte-Seine. La plupart des salutistes français sont très fermés à tout ce qui concerne les choses de l'esprit, bien qu'au départ, comme vous le savez, je viens de le dire il y a un instant, n'est-ce pas, l'armée du salut était très très charismatique, je dirais sans le savoir, et hélas, depuis l'époque de William Booth, même en Angleterre, il faut bien reconnaître que le mouvement s'est quand même très très institutionnalisé, il a perdu son allant premier, le réveil n'est plus souvent qu'un souvenir, et l'armée du salut aurait aujourd'hui besoin d'un nouveau réveil, un réveil très puissant. Ceci dit, il est certain qu'il y a des gens absolument remarquables, absolument admirables dans l'armée du salut, et que c'est un mouvement extrêmement sérieux. Alors il a son quartier général en France, son état-major, comme ils disent, rue Droitmont, à Paris, c'est ça ? Avec des commissaires, le commissaire national, c'est parce que les grades qu'il y a dans l'armée du salut correspondent aux grades de l'armée britannique. Alors, je crois que, bon, il y a les capitaines, un vrai capitaine, c'est major, je crois, et ensuite c'est commissaire, commissaires principaux, commissaires régionaux, etc., et commissaires nationaux pour ce qui est de la France, de chaque pays, et puis alors ensuite, à Londres, il y a le général. Je ne sais pas d'ailleurs qui est général en ce moment. En France, les bourses ont eu tendance pendant un temps à se transmettre la charge de père en fils, de mère en fille, mais depuis quelque temps quand même, je crois que la dynastie des bourses a fait place à d'autres personnes, si bien que je ne sais pas quel est le nom du général actuellement. Alors, en France, l'armée du salut comprend quelques centaines d'officiers, tout au plus, peut-être 2-3 000 soldats, et quelques dizaines de postes. Donc c'est quand même un mouvement très très petit, très très marginal, mais qui a une grande influence et qui a la sympathie du public en France à deux niveaux. D'abord parce que ce sont des gens qui font une œuvre remarquable au point de vue de réinsertion des marginaux, etc. Et ça, bon, bah, le grand public français, il est très sensible. Puis deuxièmement, parce que leur aspect folklorique, le chapeau Alléluia et puis le trombone à coulisses quand ils défilent dans les rues, amuse un peu les gens, mais c'est un amusement, qui n'est pas méchant. On sourit, le public sourit en les voyant, mais en même temps, le fait avec sympathie. Et d'ailleurs, ce sont en général des gens qui sont très très formés aussi pour ça, et qui sont très courtois, très gentils, etc., et qui ont le contact en général avec les publics. Alors voilà en gros ce qu'on peut dire de l'armée du salut. Et l'armée du salut nous permet maintenant de faire le lien avec ce qu'on pourrait appeler les mouvements de Pentecôte en général. Alors, il nous faut d'abord parler du réveil de Pentecôte, puis ensuite des mouvements qui en sont issus. Le réveil de Pentecôte, en fait, n'a jamais cessé dans l'Église. Quand on étudie l'histoire de l'Église, comme nous avons l'occasion de faire, il y a toujours eu des mouvements pentecôtistes, des réveils pentecôtistes dans l'histoire de l'Église. Depuis le IIe siècle avec les montanistes, comme nous avons eu l'occasion de le voir en histoire de l'Église, en passant par comment est-ce qu'on pourrait dire, on en trouve à toutes les époques pratiquement, dans tous les siècles, plus ou moins, d'une manière plus ou moins importante. On vient de parler par exemple des salutistes qui étaient aussi des charismatiques sans le savoir. Seulement, le problème c'est que les réveils pentecôtistes dans l'Église étaient sans lendemain très souvent parce que ceux qui faisaient des expériences de type charismatique ne faisaient pas de relation avec les expériences qu'ils faisaient spontanément et puis ce qui était écrit dans l'Écriture. Si bien que la plupart d'entre eux pensaient que c'était des expériences qu'ils faisaient pour eux-mêmes, une grâce spéciale que le Seigneur leur donnait, mais que ce n'était pas quelque chose qu'ils avaient à partager avec des gens d'extérieur. Par exemple, Finet, si vous lisez la biographie de Finet, vous voyez très bien que Finet a fait une expérience, qui est une expérience du baptême du Saint-Esprit, quand il parle de ces vagues d'amour qui déferlaient sur lui et qui l'amenaient à pousser des grognements indistincts, etc. C'est sûr que là, c'est une description du baptême du Saint-Esprit, mais Finet ne savait pas que c'était le baptême du Saint-Esprit, et par conséquent, il a gardé pour lui cette expérience-là. Maintenant, dans ces réveils, certainement d'autres faisaient aussi spontanément cette expérience, mais ça n'était pas, il n'y avait pas de doctrine de la chose. Si bien que, quand ces gens-là disparaissaient, l'expérience disparaissait avec eux. Et voilà que, à la fin du siècle dernier, les choses se sont produites différemment. Et le mouvement de Pentecôte est né de deux réveils. Le premier qui a eu lieu en Arménie, à la fin du siècle dernier. L'Arménie, où un certain nombre de chrétiens de type évangélique cherchaient la face de Dieu pour une visitation d'esprit, pour un réveil. Et ces gens, brusquement, n'est-ce pas, ont vu surgir en leur sein des prophètes, des gens qui se sont levés et qui ont parlé par l'Esprit Saint, un petit peu comme ça s'était produit aussi pendant le réveil sévenol, au moment de la révocation, après la révocation des villes Nantes. Là aussi, il y a eu des réveils charismatiques très importants, et le phénomène des prophètes sévenols est bien connu dans l'histoire de l'Église. Bon, il y a eu le même phénomène en Arménie. Des gens se sont levés et se sont mis à parler par l'Esprit de Dieu. Et ceux qui les ont entendus ont reconnu que c'était des gens qui parlaient par l'Esprit de Dieu. Et notamment, parmi ces prophètes, il y avait des prophéties tout à fait solennelles qui étaient données, et ces prophéties annonçaient une vague de persécution pour les chrétiens arméniens, sans précédent. Et l'Esprit de Dieu leur disait de partir, de vendre leurs biens et de partir au-delà des mers, de l'autre côté de l'Atlantique. Et le Seigneur leur faisait des promesses, disant « Je serai avec vous, je vous bénirai là où vous serez, et je vous ferai prospérer. Mais si vous restez sur place, vous périrez. » Alors évidemment que de telles prophéties ont pas mal secoué la communauté arménienne, et se sont mis à discuter fort en disant ben, « Est-ce que c'est de Dieu? Est-ce que c'est pas de Dieu? Est-ce qu'il faut obéir? Est-ce qu'il faut pas obéir ?» Et la communauté arménienne a été divisée à cause de ces prophéties-là. Beaucoup se sont dit c'est pas de Dieu, etc. Essentiellement parce qu'ils n'avaient pas envie de partir. C'était l'aventure. Et ma foi, une aventure qui... On était quand même à la fin du siècle dernier. On ne voyageait pas à cette époque-là comme on voyage aujourd'hui. Partir aux États-Unis aujourd'hui, c'est plus rien. Vous pouvez faire ça pratiquement dans la journée. Vous pouvez partir la veille et revenir le lendemain. À cette époque-là, évidemment, c'était pas une mince affaire. Alors, beaucoup hésitaient à entreprendre ce pas-là. Et à cause de ces hésitations, beaucoup ont conclu que ce n'était pas de Dieu. Plusieurs ont cru que c'était de Dieu, notamment la fameuse famille Zakarian, qui ont tout vendu, qui sont partis aux États-Unis. Si vous lisez par exemple la biographie de Zakarian dans comment ça s'appelle ? Oui, voilà, c'est ça. Zakarian explique tout ça, comment il a été amené à recommencer à zéro là-bas, sa famille a recommencé à zéro dans des conditions extrêmement pénibles. Mais ce que le Seigneur avait dit s'est accompli. Le Seigneur les a bénis. Et le Seigneur les a fait prospérer sur le plan économique, et la famille est maintenant une famille extrêmement à l'aise, même on peut dire une famille très très riche. Par contre, ceux qui n'ont pas obéi à cette prophétie, eh bien, ont eu à s'en mordre les doigts. Pendant la Première Guerre mondiale, en effet, a eu lieu le fameux génocide des Arméniens, et nombreux sont ceux qui ont péri justement dans ce génocide des Arméniens. Alors, évidemment, les Arméniens qui avaient quitté les États-Unis ont commencé à expliquer ce qu'ils avaient vécu, ce qui s'était produit. Et dans le même temps, à l'autre extrémité des États-Unis, en Californie, le réveil de Pentecôte éclatait aussi, mais sans aucune relation avec les Arméniens. C'était dans une école biblique qui avait été créée par un jeune pasteur méthodiste qui s'appelait Charles Parham, P-A-R-H-A-M. Et Charles Parham, d'origine méthodiste, donc était toujours très très intrigué par cette question du baptême du Saint-Esprit dont parlait la théologie méthodiste, la deuxième expérience, l'expérience de sanctification et tout ça. Et Charles Parham avait loué une vieille ferme en Californie, appelée Topeka, et il avait rassemblé un certain nombre de jeunes de son église pour prier et étudier la Bible, pour recevoir la puissance qu'avaient les apôtres. Ils se rendaient compte qu'il fallait un nouveau souffle dans l'œuvre de Dieu, et ce souffle-là ne pouvait venir que d'une visitation de l'Esprit de Dieu. Alors, pendant plusieurs jours, ces jeunes avaient décidé de mettre un temps à part pour prier, pour étudier la parole de Dieu ensemble. Alors, ils le faisaient séparément, chacun dans sa chambre, étudier la parole de Dieu, puis ensuite, ils confrontaient ce qu'ils avaient découvert séparément. Et c'est ainsi que par étapes successives, ils sont arrivés à un certain nombre de conclusions. Premièrement, ils ont dit, bien voilà, l'Église primitive, dans le livre des Actes, avait une puissance qui lui a permis d'évangéliser jusqu'aux extrémités de la terre. Il y a eu un avant et il y a eu un après. Il y a eu un temps où les disciples étaient timorés, timides, etc. Et puis il y a eu un temps, au contraire, où ils étaient remplis de force, de fougue, d'audace et de foi. Bon. Qu'est-ce qui a fait la différence ? La différence, c'est la Pentecôte. Ce jour-là, ils ont reçu le Saint-Esprit. Bon. Mais le Saint-Esprit, dans la théologie classique, c'est quelque chose qu'on reçoit avant la conversion. Donc, aujourd'hui, quand nous nous convertissons, nous recevons le Saint-Esprit. Pourtant, quand on étudie le livre des Actes, il semble bien qu'il y ait deux expériences. Et là, il revenait à la théologie méthodiste classique, n'est-ce pas ? Bon, les apôtres ont reçu le Saint-Esprit le jour de Pâques, quand Jésus a soufflé sur eux, en leur disant « recevez le Saint-Esprit ». Et là, ils sont devenus des nouvelles créatures, et Jésus leur a dit maintenant « attendez jusqu'à ce que vous receviez la puissance d'en haut », et c'est ce qui s'est produit le jour de la Pentecôte. Donc, il y a deux expériences. Et à partir de ce moment-là, leur vie est changée, leur témoignage est changé. Et maintenant, qu'est-ce qui fait ce changement ? Qu'est-ce que c'est que cette deuxième expérience ? Est-ce que c'est la sanctification dont parlent les méthodistes ? Et c'est là justement que Parham et les jeunes qui étaient avec lui sont allés plus loin. Ils ont dit non, ça c'est le baptême du Saint-Esprit. Alors qu'est-ce que c'est que ce fameux baptême du Saint-Esprit ? Maintenant, ils étaient arrivés à cette conclusion-là. Alors, je dis à M. Parham, voilà, je voudrais maintenant que vous m'imposiez les mains pour que je reçoive le baptême du Saint-Esprit, que je parle en langue. Alors, Parham, ça lui a fait un petit peu un choc. Elle n'avait pas tellement de foi pour ça. Mais la fille s'était agenouillée devant lui, elle attendait. Était bien obligé de faire quelque chose. Alors, avec crainte et tremblement, il a posé les mains sur la tête de ses jeunes filles, il a commencé à prier pour elles, il dit « Seigneur, je te prie que tu la baptises du Saint-Esprit, etc. » À sa grande surprise, il a entendu ses jeunes filles se mettre à parler en langue, une langue inconnue, très belle, dit-il, tout à fait calmement, pendant un certain nombre de minutes. Elle s'est relevée ensuite en disant « J'ai vraiment rencontré le Seigneur. » Elle a fait part de cette expérience aux autres, qui ont demandé à Parham à nouveau de prier pour qu'ils reçoivent le baptême du Saint-Esprit. En l'espace de quelques jours, tous les jeunes qui se trouvaient dans cette ferme de Topeka ont été baptisés du Saint-Esprit. Alors évidemment, ça a été pour eux quelque chose d'extraordinaire. Ils ont raconté ça dans leurs églises, gros émoi. Il y avait ceux qui étaient pour, il y avait ceux qui étaient contre, etc. Bref, toujours est-il qu'un certain nombre de personnes dans ces églises se sont mis aussi à recevoir le baptême du Saint-Esprit. Et les mêmes phénomènes qui s'étaient produits en Arménie se sont produits, des prophéties, des guérisons miraculeuses, et en même temps, un extraordinaire mouvement d'évangélisation qui en a découlé. Un certain nombre de pasteurs ont aussi reçu le baptême du Saint-Esprit, d'autres se sont opposés. Et alors là, le même phénomène que celui qui se produit dans tous les réveils a eu lieu, certains ont été chassés de leurs églises. Et c'est ainsi qu'en Californie en particulier, où était parti le mouvement, à Los Angeles, les premiers pentecôtistes, comme on les appelait alors, ont été amenés à louer un local, se séparer de leurs églises pour louer un local, un vaste immeuble dans la rue Azusa, trouvé à Los Angeles, qui est devenu un des hauts lieux du pentecôtisme mondial, ou alors ont eu lieu des choses extraordinaires. C'était pratiquement des réunions non-stop. Pas 24 heures sur 24, il y avait des choses qui se passaient dans ces locaux de la rue Azusa. Il y avait évidemment les réunions programmées, mais les gens venaient des heures et des heures d'avance. Si la réunion était par exemple le soir à 8h30, dès le matin, il y avait des gens qui venaient, qui passaient toute la journée en prière. Et pendant tout ce temps de prière, les gens venaient, d'autres entraient, d'autres partaient, etc. Et il y avait des gens qui rentraient malades, qui sortaient guéris, d'autres qui rentraient, qui recevaient le baptême du Saint-Esprit. Il y avait des prophéties, ça succédait. Si bien que quand l'heure de la réunion arrivait, le locaux était bondé, il y en avait partout dans la rue, etc. Il y avait des choses extraordinaires qui se passaient. La réunion terminée, c'est ce que je dis, elle durait 2-3 heures, mais lorsque la majorité partait, il y avait ceux qui restaient, qui continuaient à passer la nuit en prière, etc. Le lendemain, on les retrouvait avec d'autres qui venaient prier avant d'aller au travail le matin, etc. Enfin, il y avait toujours quelque chose qui se passait dans cette rue d'Azusa. Et là, il y a eu des miracles absolument extraordinaires qui se sont produits pendant ces premières années du pentecôtisme dans cette fameuse église de la rue d'Azusa, qui était parmi eux un noir, n'est-ce pas, un pasteur noir a été un homme qui a eu un ministère de puissance extraordinaire, c'était le pasteur Seymour, S-E-Y-M-O-U-R. D'ailleurs, le fait qu'il y ait une majorité de noirs parmi les premiers pentecôtistes de la rue d'Azusa aussi a donné au mouvement un aspect un peu particulier, l'effervescence des noirs américains qui s'est un petit peu donné sa marque sur le mouvement. Alors évidemment, depuis la rue d'Azusa, le mouvement s'est répandu dans tout le pays, aux États-Unis, au Canada. Et ceci, donc, jusque, comment dirais-je, entre les deux guerres, n'est-ce pas ? Et là, alors là, des problèmes ont commencé à éclater, notamment au Canada, où alors, différentes organisations se sont créées, se sont structurées, et notamment, il y a eu des problèmes au niveau des ministères, parce que une telle effervescence qu'il n'y a pas toujours eu un suivi suffisamment précis, n'est-ce pas, de ce qui se passait sur le plan doctrinal en particulier. Alors, notamment, l'expérience du baptême du Saint-Esprit a été appréhendée différemment. Il y a eu, par exemple, ce qu'on appelle le mouvement de sainteté, qui restait dans la mouvance du méthodisme et qui disait, bon, ben, il y a trois expériences, il y a la conversion, il y a la sanctification et il y a le baptême du Saint-Esprit. Et puis il y a eu les autres mouvements, c'est-à-dire les assemblées de Dieu, qui disaient non, ce que les méthodistes appelaient l'expérience de sanctification, en fait, c'est l'expérience du baptême du Saint-Esprit. Alors, il y a eu clivage déjà à ce niveau-là, un clivage qui n'était pas trop grave encore, ce n'était pas quelque chose qui touchait l'essentiel. Mais par contre, il y a eu un clivage beaucoup plus inquiétant qui s'est produit au lendemain de la Première Guerre mondiale. C'est les problèmes au niveau de la doctrine de la Trinité. Un certain nombre de gens sont devenus unitaires, c'est-à-dire la vieille hérésie sabellianiste dont on a parlé, dont on parle en ce moment en histoire de l'Église, a ressurgi. Et beaucoup ont prétendu, notamment au Canada, que Jésus était lui-même à la fois Père, Fils et Saint-Esprit. N'est-ce pas ? Et que le seul baptême valable était le baptême qui était le nom de Jésus, d'où le nom de Jésus seul donné à ce mouvement. Alors, ils exhortaient les chrétiens qui avaient été baptisés au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit à être rebaptisés au nom de Jésus seul. Alors, une controverse extrêmement amère a éclaté entre les deux tendances du mouvement aux États-Unis, et alors ça a été la fin du réveil. Le réveil s'est arrêté net à ce moment-là, ça a été la sclérose du mouvement à partir de ce moment-là. Alors, les différents mouvements, qu'est-ce qu'il y a ?
T'as dit, je sais pas.
Ben, c'est les différentes branches du pentecôtisme. Il y a eu deux grandes. Enfin, il y a eu l'apparition de ce mouvement unitariste, surtout, qui a été. C'est surtout du Canada et dans le nord des États-Unis. Ça s'est répandu ensuite un peu partout, mais l'origine était là. Et donc, ça a provoqué des controverses entre les pentecôtistes entre eux. Ils se sont combattus parce que donc ils rebaptisaient les gens, etc. Et ça a discrédité le mouvement, ça a arrêté l'œuvre de l'esprit. Un arrêt net. Mais en même temps, le mouvement avait débordé les États-Unis et il s'était répandu d'abord en Europe. En Europe, d'une manière tout à fait étonnante d'ailleurs, c'était un pasteur norvégien, il s'appelait Barats. Lequel Barats, au lendemain de la Première Guerre mondiale, voulait reconstruire, vous savez, beaucoup d'églises avaient été détruites pendant la première Guerre mondiale, il voulait reconstruire une église neuve. Bon, il n'avait pas d'argent. À cette époque, les pays scandinaves ne connaissaient pas la prospérité qu'ils connaissent aujourd'hui. Et le pays de cocagne, à ce moment-là, c'était l'Amérique. Et Barats a fait ce que faisaient beaucoup de pasteurs européens à cette époque-là, quand ils voulaient construire des églises. Par exemple, pour la petite histoire, les baptistes avaient fait ça. Ils avaient dépêché un couple, un pasteur et sa femme, aux États-Unis pour ramasser de l'argent pour reconstruire des églises. Et ces gens-là avaient ramassé de quoi construire deux ou trois églises, en passant les églises baptistes américaines, non pas pour y prêcher l'évangile, mais pour y chanter la Marseillaise. Et c'était l'époque où les Américains étaient assez cocardiers aussi, la France, c'était le pays qui avait sacrifié, n'est-ce pas, pour la cause des Alliés, bon, de plusieurs millions de ses fils. Alors la France, c'était vraiment le pays formidable à ce moment-là. Alors il leur suffisait de chanter la Marseillaise et les dollars rentraient. Bon, alors Barats, c'était discutable bien sûr. C'est pour vous dire la mentalité qui régnait à ce moment-là. Barats, encouragé par cet exemple, a pris le bateau pour les États-Unis aussi pour ramasser de l'argent. Seulement la vague d'enthousiasme était un peu passée, puis il n'était pas français le pauvre, il était norvégien. Et la Norvège, ça faisait un peu moins recette que la France. Si bien que ça n'a pas trop marché, son affaire. Il n'a pas ramassé beaucoup de centimes. Par contre, il s'est trouvé dans une église pentecôtiste. Et là, il a reçu le baptême du Saint-Esprit. Et quand il a repris le bateau, il avait toujours la bourse aussi plate que quand il était rentré, sinon même un peu plus, parce qu'il avait eu des frais. Mais par contre, il est rentré avec la puissance du Saint-Esprit, ce qui était certainement beaucoup plus valable que tous les dollars qu'il aurait pu récolter. Alors, il n'a pas construit d'église en rentrant en Suède, mais il a prêché la Pentecôte. Et un extraordinaire réveil a commencé à avoir lieu en Norvège. De là a gagné la Suède, la Finlande et tous les pays scandinaves. Et là, on peut dire que une très très puissante vague de l'esprit a submergé les pays scandinaves. et a donné naissance donc au pentecôtisme norvégien, suédois, qui est une des grandes composantes maintenant du protestantisme en Suède, qui est très développé, qui a ses propres journaux, de grandes églises comme Philadelphia de Stockholm, qui a plusieurs milliers de membres, qui a été conduite pendant longtemps par le pionnier du mouvement pentecôte en Norvège, Lewis Petrus. C'était un homme de Dieu remarquable qui, jusqu'à 90 ans, prêchait l'Évangile. Et pratiquement jusqu'à sa mort, il a été le pasteur de cette église, Philadelphia de Stockholm, même si, hélas, aujourd'hui, il faut déplorer que, là aussi, le réveil est un petit peu passé et que la plupart des églises scandinaves, aujourd'hui, sont dans un triste état spirituel, auraient besoin d'un puissant réveil. Mais à cette époque-là, c'était vraiment quelque chose de remarquable. Et puis, ensuite, le réveil est arrivé en Angleterre, bien entendu. Quand quelque chose se passe en Amérique, automatiquement, l'Angleterre suit. Mais l'Angleterre connaissait aussi, à ce moment-là, d'autres types de réveils. En 1905, avait eu lieu au Pays de Galles un extraordinaire réveil. Le réveil qui avait marqué le pays dans son ensemble, n'est-ce pas ? À la suite de la conversion de quelques mineurs du Pays de Galles, qui avaient fait une expérience bouleversante avec Dieu, et puis qu'on avait simplement fait part. Et finalement, ce qui se passait à la rue Azusa se passait dans les réunions des Van Robets dans le Pays de Galles. Alors, c'était une atmosphère, pendant des années, plusieurs années de suite, n'est-ce pas, le réveil a été ininterrompu. Les gens vivaient, on peut dire, dans le ciel, quoi, hein, dans le ciel constamment, du matin au soir, jour et nuit. Alors, les mineurs, n'est-ce pas, c'était essentiellement dans le Béni et du Pays de Galles qu'avait lieu ce réveil, se levaient donc très tôt le matin, 4 heures du matin, pour aller au travail, dans la mine, dans des conditions combien difficiles, vous le savez, et à cette époque-là encore, c'était pire qu'aujourd'hui. Ils allaient d'abord à l'église prier une heure ou deux avant de partir au travail. Ils descendaient dans la mine en chantant des cantiques. Ils travaillaient en priant, en louant le Seigneur. C'était quelque chose d'absolument extraordinaire. Le soir, en sortant de la mine, ils rentraient chez eux, se lavaient, mangeaient rapidement sur le bout du pouce. Et c'est pareil, ils allaient à l'église prier en attendant la réunion. Et la réunion terminée jusqu'à 2-3 heures du matin, il y a encore des gens dans les rues qui chantaient, qui criaient, etc. Pendant plusieurs années comme ça, le pays tout entier a été secoué, a été bouleversé par ce réveil, qui n'était pas encore à l'époque un réveil charismatique. Mais lorsque, dans le même temps, on a appris qu'aux États-Unis se passaient ces choses extraordinaires, ces gens étaient tout prêts pour recevoir justement la vague de l'esprit qui venait. Et le réveil pentecôtiste a embrayé sur le réveil du Pays de Galles, qui entre-temps avait éclaté dans toute l'Angleterre, avait dépassé les frontières du Pays de Galles, n'est-ce pas ? Et c'est là que, vous savez, si vous connaissez Cronin, par exemple, les romans de Cronin, La Citadelle ou des choses comme ça, Cronin a été lui-même originaire du Pays de Galles, il a dépeint la vie dure des mineurs du Pays de Galles. Cronin était un athée convaincu, qui finalement s'est converti. Il s'est converti pendant ce réveil du Pays de Galles, et il s'est converti d'une manière tout à fait extraordinaire. C'était un soir... il y avait eu un coup de grisou dans une des mines, dans un des puits de mine, et donc plusieurs mineurs avaient été emmurés dans une galerie. Et on essayait de venir à leur secours en essayant de déblayer les tonnes de charbon qui s'étaient écroulées. On avait une chance sur mille de les récupérer, n'est-ce pas ? Et après des jours et des jours, n'est-ce pas, où ces gens étaient restés sans manger, sans boire, sans lumière, sans rien, finalement on a réussi à les rejoindre et à les sauver in extremis. Alors, Cronin, qui était journaliste, les attendait à la sortie de la mine pour faire un reportage pour son journal. Il s'attendait à voir sortir du puits de mine des gens complètement âpres, maigris, pratiquement sur des civières, etc. Et quand la benne est remontée du puits et que la porte de la benne s'est ouverte, c'était le cantique, qui était l'hymne, on peut dire, du réveil du Pays de Galles. Très beau cantique, torrent d'amour et de grâce, n'est-ce pas ? Ces gens-là chantaient de tout leur cœur, n'est-ce pas ? Torrent d'amour et de grâce. Et Cronin a tellement été bouleversé de voir ces gens qui remontaient pratiquement, qui avaient vu la mort en face, n'est-ce pas ? Et qui étaient dans un état, n'est-ce pas, d'une paix, d'une joie extraordinaire, n'est-ce pas ? Chantant ce cantique, ça l'a bouleversé, il s'est converti là sur le carreau de la mine. Voilà quelques exemples de ces extraordinaires moments que le Seigneur a permis donc le Pays de Galles connaisse. Alors, le réveil s'est répandu donc dans tout le pays, pratiquement, et a donné lieu en Angleterre à trois mouvements différents. Le mouvement principal des Assemblées de Dieu,
connaissons, dont nous allons parler dans un instant.
Le mouvement, un mouvement dissident par l'intermédiaire des frères Jeffreys. Alors les Jeffreys, c'est vraiment des cas, ces gens-là. Ce sont aussi des gens, je ne sais pas, des mineurs aussi, je crois. Peu importe. Enfin, c'était des gens, en tout cas, ou de très humbles conditions, qui n'avaient pratiquement pas de formation intellectuelle très importante, mais qui ont reçu des ministères de la part du Seigneur extraordinaires. Jeffreys a été amené à créer un collège biblique. Il avait un ministère de docteur, un des frères Jeffreys, et bien que n'ayant pas, ayant une instruction très très limitée, il est devenu un docteur sur la parole de Dieu absolument remarquable. Alors lui ne croyait pas que le baptême du Saint-Esprit se manifestait obligatoirement par le parler en langue. Il pensait qu'il pouvait y avoir d'autres signes du baptême du Saint-Esprit que le parler en langue. Et ça a été le point de désaccord avec les assemblées de Dieu, ce qui fait qu'il a créé son propre mouvement, qu'on appelle le mouvement ILIM en Angleterre, qui est un mouvement pentecôtiste extrêmement sérieux, mais qui n'est pas aussi affirmatif que les assemblées de Dieu sur le signe initial du baptême du Saint-Esprit. Et il y a ensuite un autre frère, Jeffreys, qui lui était un homme qui avait un ministère d'évangéliste et un don de guérison absolument extraordinaire. Et Jeffreys, lui aussi prêchait l'évangile un petit peu à la manière des salutistes, c'est-à-dire il louait des salles dans les bas-fonds de Londres, à Zoo, et le Pigalle londonien, etc. Des choses comme ça, dans les cafés et tout. Et les gens se convertissaient sur place. C'était absolument remarquable. Il y avait une telle puissance du Saint-Esprit dans la personne de Jeffreys que les gens étaient terrassés sur place, convaincus de prêcher d'une manière formidable. Et ceux qui ont connu Jeffreys disent que alors, sa prédication était d'une pauvreté extraordinaire. Il était incapable de prêcher. Il prenait la Bible et puis il prenait un texte comme ça. Jésus a dit « Celui qui croit en moi vivra quand même il serait mort. » Vous vous rendez compte ? Jésus a dit ça. Mais c'est formidable ça. Jésus a dit et il relisait. Oh, alléluia. Merci Seigneur. Gloire à Dieu. Jésus a dit celui qui croit en moi. Et simplement comme ça, les gens se convertissaient. Rien qu'en entendant une prédication de ce type-là. Et puis ensuite, il invitait les malades à s'approcher. Les malades étaient guéris. Il y avait des guérisons absolument sensationnelles. C'est là que M. Le Cossec s'est converti dans une des campagnes de Jeffreys. Il souffrait abominablement d'asthme, lui comme son père d'ailleurs. Et alors, donc, au moment de la prière, ils sont approchés. Le père de M. Cossec a été guéri sur place, à l'instant. Des choses extraordinaires. Son fils, jusqu'à maintenant, n'a pas été guéri. M. Cossec souffre toujours d'asthme, jusqu'à aujourd'hui. Il y a des choses comme ça, difficilement compréhensibles. Ça. Bon, enfin, c'est comme ça. Alors, voilà donc ce qu'ont été les frères Jeffreys. Ensuite, il y a eu un homme aussi remarquable sur le plan du don de guérison, c'était Smith Wigglesworth. C'est aussi un mineur, je crois, ou un métallo, plutôt, qui était un buveur, un type complètement débauché, enfin, épouvantable, avait un caractère terrible, c'était une force de la nature, un colosse, il bagarrait, comment ? Wigglesworth, je pense, c'est un nom. Il y a un bouquin dans la bibliothèque de lui, je vous le recommande, c'est remarquable, remarquable. Ça, c'est vraiment la prédication pentecôtiste, des premiers pentecôtistes, hein. C'est vraiment extraordinaire. Rien de tel pour stimuler la foi. Wigglesworth, W-I... Oh, je ne me souviens plus, il faudrait le prendre. Enfin, écrivez ça comme vous voulez. W-O-R-T-H à la fin, ça je sais. Mais ce qu'il y a entre deux, je ne sais pas.
Et Jeffreys, c'est ça que vous
voulez ? J ou G, je ne me souviens plus. E, G, 2 F, E-R-Y. Peut-être. Je ne sais même plus si c'est J ou G. Jeffreys, avec un S à la fin. Oui. Ouais. Alors Smith Wigglesworth s'est converti aussi dans la mouvance du réveil du Pays de Galles. Et il a été guéri. Alors qu'il était à la mort pratiquement. Je ne sais même plus ce qu'il appelait, tuberculose ou des choses comme ça. Guéri instantanément. D'ailleurs, c'est tout à fait étrange parce que sa guérison a eu lieu comme ça. Il avait entendu dire que le Seigneur guérissait, etc. Et puis il a pris au mot. Il dit, Seigneur, ben, je suis à la mort, je ne risque plus rien, n'importe comment, de toute façon, c'est fini. Il avait même plus la force de se traîner dans une réunion. Alors, il a pris une bouteille d'huile parce que on avait vu les malades. Il s'enfermait tout seul dans les toilettes pour que personne ne sache ce qui se passait. Il a prié, il dit Seigneur, et tu as dit que si quelqu'un est malade, eh bien, les anciens lui ont vu le nom du Seigneur. Alors, j'ai personne ici pour prier pour moi, mais Seigneur, tu es tout puissant. Il s'est versé toute la bouteille d'huile sur la tête. Il a été instantanément guéri. Et alors, il a commencé un ministère aussi d'évangéliste extraordinaire. C'est, je crois, le plus grand des évangélistes de la Pentecôte qu'il a été. Alors, il avait une technique d'évangélisation tout à fait spéciale. Il était vraiment... Ceux qui l'ont connu disent que c'était un... C'était vraiment... il était unique, quoi. Hein. Alors, il avait fait cette constatation, il dit, Jésus n'a jamais demandé à personne de se convertir, n'a jamais demandé à personne de croire en lui sans avoir d'abord donné des signes miraculeux. Alors, quand il organisait une campagne d'évangélisation quelque part, il y avait un monde fou, il était connu partout pour son don de guérison et pour son ministère évangéliste, il leur disait ça. Il dit, voilà, le Seigneur n'a jamais demandé à personne de croire en lui sans avoir donné des signes qu'il était vivant, qu'il était puissant. Il a dit, ils imposeront les mains malades et les malades seront guéris. Alors voilà, ici je vous fais une promesse de la part du Seigneur. Je vais demander aux malades de s'approcher. Le premier malade qui viendra ici, qui aura suffisamment de foi pour venir ici, pour que je prie pour lui, sera guéri, quelle que soit sa maladie. Si jamais c'est pas vrai, alors je suis un menteur et l'évangile n'est pas vrai. Et je m'en vais, je plie bagage à l'instant même et je repars chez moi. Une sacrée foi pour dire ça, hein. Eh bien, ça n'a jamais manqué. Alors, les gens hésitaient en général, puis finalement, il y en avait un qui avait un peu plus de foi que les autres, qui se levait. Et quelquefois, alors, ceux qui le connaissaient, et puis les chrétiens qui étaient là, quand ils disaient ça, ils avaient quelquefois un petit frisson dans le dos, quand ils voyaient un éclopé, là, qui se levait, etc., ou bien condamné, ils disaient, là, ça va louper, etc. Jamais, jamais. Toujours, le gars est parti guéri. Toujours, toujours. Alors, quelquefois, paraît-il, le gars... alors, Jeffrey, il était là, il priait pour lui, il dit, vous êtes guéri, allez, alors, levez-vous maintenant, allez, lâchez vos béquilles, etc. Ou bien, le gars, je pense qu'il avait mal à l'estomac, il dit, vous avez mal à l'estomac encore ? Alors, mais non, vous n'avez plus mal. Il prend un coup de poing à l'estomac, pour montrer à tout le monde que le gars avait plus mal. Alors, évidemment, c'était un peu spécial, quoi. Et c'est Miguel Wirth qui un jour faisait une campagne d'évangélisation chez David Duplessis, qui était jeune pasteur en Afrique du Sud à l'époque. Et un soir, un matin donc, Duplessis s'était levé un peu plus tôt pour prier pour la campagne d'évangélisation. Il était tout seul dans son bureau. Et tout d'un coup, la porte s'ouvre comme un ouragan. Miguel Wirth rentre, n'est-ce pas ? Mets-toi à genoux, il lui fait. L'autre centre comprend qu'il est à genoux, il prie pour Miguel Wirth lui impose les mains. Et commence à prophétiser tout ce que serait son ministère. Il a annoncé donc que le réveil de Pentecôte comme avait commencé, selon ce qui était écrit dans l'Évangile, d'abord par les gens du peuple. Et que dans un deuxième temps, eh bien, le mouvement Pentecôte se répandrait dans les églises historiques. Et troisièmement, qu'il atteindrait justement les instances les plus hautes de l'Église. Et il disait, toi, David Duplessis, le Seigneur t'appelle, et tu auras un rôle prépondérant dans l'expansion de ce mouvement chez ces gens-là. Et il lui a annoncé tout son ministère. Et qu'ensuite, tel que ça s'était produit, dès que la prophétie était terminée, il est ressorti comme un ouragan, il a claqué la porte derrière lui, puis il est parti. Duplessis était là, il se demandait un petit peu ce qui lui arrivait. On frappe à la porte, à rentrer. La porte s'ouvre délicatement, la tête de Miguel Wirth qui passe. Je peux rentrer ? Alors, Duplessis le fait rentrer. Et lui dit, alors, Duplessis, il dit, mais qu'est-ce que vous avez ? Il dit, oui, voilà, Seigneur m'a réveillé ce matin. Et puis il m'a dit, va dans prier pour Duplessis, lui annoncer ce qui va se passer. Tu salueras personne, comme vous savez, comme le Seigneur dit quelquefois dans la parole de Dieu, tu salueras personne, et quand tu auras fini, tu repartiras sans saluer personne. Alors il dit, je suis arrivé, je ne saluais personne, et je suis parti, maintenant que j'ai fini, je peux parler avec vous, je vous dis bonjour, comment ça va, etc. Alors il va, ils ont reparlé un peu de tout ça, puis il lui dit, écoutez, vous allez être amené à voyager beaucoup dans votre vie, je vais prier pour vous, pour que le Seigneur vous donne une bonne santé. Alors il a prié pour lui. Et Duplessis a dit qu'il n'avait jamais été malade quand il était en voyage, à partir de la prière de Miguel Wirth. C'était vraiment extraordinaire, des gens comme ça. Puis alors ensuite a surgi Donald G. Donald G qui avait lui un ministère de docteur. Et Donald G qui aussi s'est converti dans toute la mouvance de ce réveil-là en Angleterre. Et il est devenu docteur d'écriture. Quand il est arrivé donc dans le Pays de Galles, en particulier pour prêcher les pour donc enseigner, on regardait d'un drôle d'œil, c'est un docteur, on n'a pas besoin de ça, un intellectuel, etc. Et Donald G. est devenu le grand docteur de la Pentecôte mondiale, on peut dire. Celui qui a remis en place bien des erreurs qui commençaient à se faire jour, notamment cette fameuse histoire de l'unitarisme, etc. Et là, Donald G. N'a pas eu un ministère aussi spectaculaire que David Gosworth ou d'autres, n'est-ce pas ? Mais Donald G. a été vraiment un homme de Dieu aussi remarquable et extrêmement précieux. Alors, c'est un troisième mouvement a surgi en Angleterre aussi à ce moment-là, c'est le mouvement apostolique. Le mouvement apostolique est né aussi dans le Pays de Galles, à partir de gens qui s'appelaient Roberts aussi, parce que Roberts là-bas, c'est comme Dupont ici, en France. Et alors, deux frères qui ont redécouvert aussi les ministères selon Éphésiens 4. Et ce témoignage, cette doctrine n'a pas été acceptée par tous les mouvements pentecôtistes, si bien qu'ils ont fondé leur propre mouvement, qu'ils ont appelé le mouvement apostolique, qui a trouvé par contre une large audience au Danemark, où il est largement représenté, il représente une des composantes essentielles de la Pentecôte danoise, et c'est au Danemark qu'ils ont créé leur grand centre mondial, n'est-ce pas, les apostoliques. Alors évidemment, ils ont poussé ensuite un peu trop loin la doctrine des ministères en institutionnalisant un petit peu trop ça, mais par exemple, Martinus Bière, le grand prophète danois, dont vous avez certainement lu le livre, était de l'Église apostolique. Hein. Monsieur Falb aussi, au départ, est né spirituellement dans l'Église apostolique. Alors là, il nous faut parler maintenant de l'avenir du mouvement en France. Eh bien, en France, les choses sont venues tout à fait d'une manière tout à fait étonnante. En 1929, il y avait au Havre un certain nombre de chrétiens qui priaient pour que le Seigneur envoie un réveil. Ils ne connaissaient rien de la Pentecôte ni rien. Et les réunions de prière avaient lieu dans un restaurant qui était tenu par une certaine mademoiselle Biolay, une vieille demoiselle, qui était un restaurant de type croix bleue, c'est-à-dire qu'on n'y servait pas d'alcool. Et il s'appelait le ruban bleu, du nom des bateaux qui faisaient à l'époque le trafic dans l'Atlantique Nord. Et il accueillait notamment des marins qui avaient tendance à boire un peu trop, et puis bon, qui à ce moment-là étaient évangélisés, et en même temps, on les amenait à se passer de la bouteille. Et donc, il y avait chaque soir, pratiquement, dans ce restaurant, quand les clients étaient partis, il y avait une réunion de prière où quelques chrétiens autour de cette mademoiselle Violet se rassemblaient. Et puis ils avaient à cœur, dit Seigneur, envoie-nous quelqu'un qui pourrait vraiment nous conduire plus loin, en asseoir d'autres choses, etc. Et un beau jour, est arrivé au ruban bleu un Anglais qui s'appelait Douglas Scott et qui était un pentecôtiste, un pasteur pentecôtiste anglais, qui venait passer quelque temps en France pour apprendre le français et ensuite partir comme missionnaire dans les pays d'Afrique de langue française. Et comme par hasard, comme c'était un hôtel chrétien, il y avait des chrétiens, bien entendu, Douglas Scott s'était senti poussé à descendre, mettre son pied à terre au ruban bleu. Et là, il a appris qu'il y avait un groupe de chrétiens qui priaient, parce qu'ils avaient soif d'autre chose. Alors Douglas Scott leur a parlé de la Pentecôte, leur a parlé du baptême du Saint-Esprit, et puis, en l'espace de quelques jours, les quelques chrétiens qui se rassemblaient là ont reçu le baptême du Saint-Esprit. Alors, Douglas Scott a organisé des réunions au ruban bleu. De nombreuses personnes ont commencé à venir du Havre et des environs. Il y a eu des miracles, car Douglas Scott avait un don de guérison absolument remarquable. C'était l'homme, par exemple, qui, en voiture, était par exemple en voiture avec mademoiselle Violet, disait « Arrêtez-vous, arrêtez-vous ». Il s'arrêtait. « Monsieur, venez un peu par ici, là. Vous êtes malade, vous, hein ?» Vous souffrez de ceci, de cela, mettez-moi à venir, je vais prier pour vous. Sur le trottoir, il priait, le gars était guéri sur place. Alors évidemment, deux, trois miracles comme ça dans la ville, et puis vous pouvez être sûr que toute la ville était à la réunion le soir. Hein. Ça se disait, ça se connaissait, etc. Il sentait, c'est pas, le Seigneur lui montrait que quelqu'un était malade, etc. Alors, Douglas Scott, évidemment, avait un accent anglais absolument incroyable et irrésistible, et ses bourgs sont absolument... sont restés mémorables, n'est-ce pas, dans la mémoire de ceux qui l'ont connu, mais il a été vraiment le père de la Pentecôte française. Alors raconte par exemple une parmi d'autres, un jour dans une réunion, il y avait une dame en deuil, vous savez,
avec un crêpe noir sur la tête, quoi, elle était tout triste, tout ça. Puis alors à la fin de la réunion, ils invitaient les malades à s'approcher pour prier pour eux. Et puis, vous voyez que cette dame avait besoin de prière et qu'elle n'osait pas s'avancer, alors il l'interpelle. Il dit, vous là-bas, la dame en douille, avec une crêpe sur la tête. des choses comme ça, quoi. Et donc, bientôt, toute la Normandie brûlait du feu du réveil. Et là, de Glascott était dépassé. On l'a invité à... Il a dit, bon, ben, je vais rester en France plus longtemps que ce que j'avais prévu. Et alors, il a demandé, il s'est dit, Seigneur, envoie-moi des collaborateurs. Et c'est alors qu'est arrivé du Danemark un jeune évangéliste qui avait reçu le baptême du Saint-Esprit récemment, qui avait revenu une vie absolument dissolue, venait brusquement se convertir. C'était Ove Fall, le vieux pasteur Ove Fall, qui est encore aujourd'hui à 86 ans, missionnaire à Madagascar, et qui à l'époque évidemment était tout jeune, et qui là est venu comme bras droit de Douglas Scott pendant ce réveil qui a eu lieu en Normandie. Alors là, des pasteurs baptistes ont commencé à se convertir, notamment un pasteur normand, qui s'appelait Pierre Nicole. Et Pierre Nicole, qui était un homme de grande valeur, une grande connaissance de la parole de Dieu, est devenu l'homme qui a conduit le réveil normand, donc et aujourd'hui les grosses églises pentecôtistes de Normandie, qui comptent plusieurs centaines de membres, comme Le Havre, Rouen et d'autres, n'est-ce pas, doivent beaucoup au ministère de Pierre Nicole.